Vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h pour le point actualité. Nawel El Amouchi. Le nouveau pape Léon XIV a célébré ce matin sa première messe en tant que chef de l'Église catholique dans la chapelle Sixtine au Vatican en présence des cardinaux électeurs. Il a déploré dans son discours le recul de la foi au profit d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès et le pouvoir selon ses mots. Il a également appelé à ne pas réduire Jésus, je cite, à une sorte de leader charismatique ou de surhomme. Une délégation du Hamas a eu des discussions en vue d'une trêve à Gaza mercredi et hier à Doha au Qatar avec les médiateurs égyptiens et qataris, mais sans aucun progrès tangible, selon des sources proches du mouvement à l'agence France Presse. Et Emmanuel Macron a apporté son soutien au sommet populaire pour la paix, une initiative qui rassemble ce vendredi des militants juifs et arabes à Jérusalem. Ceci constitue un signal d'espoir selon les mots du chef d'État, avant d'ajouter que la situation à Gaza est tragique. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a réuni son congrès avec succès en vue de prononcer sa dissolution et de mettre un terme à des décennies de combats qui ont fait près de 40 000 morts en Turquie. L'état de guerre s'installe entre l'Inde et le Pakistan. New Delhi a accusé Islamabad d'une nouvelle vague de frappes nocturnes sur son territoire et le Pakistan a affirmé avoir abattu de nouveaux drones indiens en dépit des appels internationaux à la désescalade. Ces récentes attaques entre ces deux puissances nucléaires ont causé depuis le 22 avril la mort d'une cinquantaine de civils. Le président américain Donald Trump a suggéré de baisser à 80% les droits de douane sur la Chine qui atteignent actuellement 145% et ceci avant des négociations entre les deux pays sur leurs relations commerciales en Suisse. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé un sommet de dirigeants européens soutenant Kiev face à l'invasion russe. Un sommet prévu selon lui samedi en Ukraine. Et Kiev et ses soutiens européens ont donné leur feu vert aujourd'hui à la création d'un tribunal spécial chargé de juger la Russie pour son invasion de son voisin ukrainien lancée en 2022. Et ceci pourrait, selon l'Ukraine, permettre de condamner en justice Vladimir Poutine. Et le chef de la diplomatie européenne a annoncé le déblocage d'un milliard d'euros en faveur de l'industrie de défense ukrainienne, une somme financée grâce aux intérêts générés par les avoirs russes gelés dans l'Union européenne. Et à Moscou, ont lieu aujourd'hui les commémorations des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Vladimir Poutine a célébré, je cite, le courage des soldats russes engagé en Ukraine, un discours qu'il a tenu devant des milliers de militaires rassemblés sur la place Rouge, ainsi qu'une vingtaine de dirigeants étrangers, dont le président chinois, qui a fait le déplacement. Au Maroc, maintenant, 9 personnes ont été tuées cette nuit dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans un quartier de la ville de Fès. L'immeuble figurait sur la liste des bâtiments menaçant de s'effondrer. Une enquête a été ouverte. Et en France, le meurtrier présumé d'Aboubacar Cissé, qui s'était rendu à la police en Italie 3 jours après avoir tué ce jeune homme de 22 ans dans la mosquée de la Grande Combe, est transféré en France dans la journée. Une annonce de la procureure de Nîmes. Place maintenant au magazine d'information de la rédaction, où l'on traite l'actualité nationale et internationale avec profondeur. Et on débute par des réactions suite à l'élection du nouveau pape Léon XIV, des propos recueillis par François-Xavier de Calonne.
Interview.
Le nouveau pape Léon XIV est devenu jeudi soir le 267e souverain pontife. Il est aussi devenu le premier pape américain de l'histoire. Il a célébré ce vendredi sa première messe en tant que chef de l'Église catholique dans la chapelle Sixtine au Vatican, en présence des cardinaux électeurs. Le frère Jean-François Bourg, membre de la Conférence des évêques de France, évoque à notre micro les défis du nouveau pape.
Dans ses premiers mots, il a salué la foule en parlant de paix. Et quand le pape dit « voilà, je voudrais vous saluer avec la paix du ressuscité », je pense qu'il nous appelle à essayer de construire avec la grâce de Dieu un monde renouvelé qui est inauguré pour nous par la résurrection du Christ. C'est possible. C'est ça que ça veut dire dans la foi chrétienne. C'est possible. On n'est pas condamné à la violence, on n'est pas condamné indéfiniment à ces déchirements permanents. Ça, c'est une première chose. Et on sait que la paix, beaucoup de peuples en ce moment en ont infiniment besoin. J'étais encore épouvanté hier. L'hécatombe à Gaza de presque une centaine de morts en une journée. Je suis épouvanté. Pourvu que des bonnes volontés se lèvent pour mettre fin à ce désastre et à d'autres massacres à travers le monde. Et l'autre défi, je pense que le pape Léon XIV aussi nous rappelle la nécessité de travailler à plus de justice sociale, à prendre soin des pauvres, de ceux qui sont dans la détresse. Et en ce sens, il se place certainement dans la ligne du pape Léon XIII, voilà, puisqu'il a choisi ce nom, qui dans une encyclique qu'on appelle Rerum Novarum en 1891, justement mettait l'accent sur la justice sociale, alors qu'au XIXe siècle, l'industrialisation aggravait en fait des disparités et des détresses sociales et beaucoup de pauvreté.
Merci Jean-François Bourg, membre de la Conférence des évêques de France.
Et autre réaction importante, c'est celle du cardinal franco-algérien Jean-Paul Vesco qui a participé au conclave. On l'écoute.
Ce qui est sûr, c'est que dans son dialogue, toutes les rencontres qu'il fera, notamment avec évidemment des personnes musulmanes, tout le monde sera frappé par son humilité, sa simplicité. Et ça, c'est son arme d'une certaine manière, c'est son arme principale dans le dialogue. Et c'est une arme de paix. Et son premier discours à la loge de Saint-Pierre était justement d'appeler, de parler de paix. Je pense que ce sera vraiment un homme de paix. Là-dessus, j'ai nulle crainte. Les gens vont avoir en face d'eux un homme simple. C'était déjà le cas de François, mais ça le sera là aussi encore. Un peu différemment, parce qu'évidemment, c'est pas la même personnalité, mais c'est la même chose. C'est quelqu'un qui va au contact, qui aime le contact. Il le fait avec une certaine, il n'est pas envahissant du tout. Il n'est pas, il fait pas de bruit, mais il est là et. Est prêt à parler. Aujourd'hui, il a encore déjeuné avec nous et puis il s'est attardé. Il a été le dernier à quitter la salle à manger. C'est incroyable. C'est incroyable quand on imagine tout ce qu'il attend. Voilà. Il est resté jusqu'à 2h30 tranquillement. Et tous ceux qui veulent lui parler pouvaient lui parler.
Et vous l'avez senti apaisé malgré cette charge immense.
Oui. On a senti un homme incroyablement paisible, parce que le moment est quand même bouleversant. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, les noms, ça fait, plus ça va, plus à chaque vote, plus le nombre augmente, et donc son nom est répété, et on voyait l'homme paisible, en prière souvent, et puis tout d'un coup, il est proclamé, il est celui qui a eu les voix nécessaires, et donc et c'est très beau, quoi, parce que tout d'un coup, il voyait sa vie qui basculait.
C'était le cardinal franco-algérien Jean-Paul Vesco au micro de François-Xavier de Calonne. Dans un tout autre volet maintenant, peut-on remplacer l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens? Une question cruciale à laquelle ses responsables répondent catégoriquement non. Les précisions avec Nadia Bencher.
Lors d'un point de presse ce vendredi à Amman en Jordanie, la porte-parole de l'UNRWA, Juliette Touma, a affirmé avec force qu'il est très difficile d'imaginer distribuer de l'aide humanitaire à Gaza sans l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Juliette Touma insiste qu'il est impossible de remplacer l'UNRWA dans un endroit comme Gaza. Nous sommes la plus grande organisation humanitaire sur place, dit-elle, alors qu'elle était interrogée suite à l'annonce récente des États-Unis concernant la création d'une nouvelle fondation pour gérer l'aide dans la bande de Gaza, territoire palestinien sous blocus israélien et dévasté par la guerre. Cette nouvelle fondation, encore peu connue, serait une organisation à but non lucratif enregistrée en Suisse, à Genève, depuis février. Mais pour l'UNRWA, cette initiative ne peut pas remplacer leur rôle essentiel. À Gaza, plus de 10 000 personnes travaillent pour acheminer ce qui reste des fournitures vitales. L'agence gère aussi des abris pour les familles déplacées. Juliette Touma souligne qu'il est très très difficile d'imaginer toute opération humanitaire sans l'UNRWA. Depuis le 2 mars, date de la reprise de l'offensive israélienne, aucune aide humanitaire n'a pu entrer dans la bande de Gaza où vivent 2,4 millions de personnes. Israël affirme que le blocus vise à faire pression sur le Hamas pour libérer les otages retenus depuis l'attaque du 7 octobre 2023. L'État hébreu a aussi proposé de distribuer l'aide dans des centres contrôlés par l'armée, une idée vivement critiquée par l'ONU et les organisations humanitaires. Rolando Gomez, un porte-parole de l'ONU à Genève, a fermement rappelé que l'ONU ne participera à aucune opération d'aide qui ne respecte pas ses principes d'indépendance, d'humanité et d'impartialité.
Place maintenant à l'actualité sportive avec Arthur Claude Savoie.
Radio Orient Sport.
Il y aura une finale 100% anglaise en Ligue Europa. Alors qu'ils sont sur une série de défaites en première ligue, Manchester United a pulvérisé l'Athletic Bilbao 4-1. Solide et efficace devant son public, les Red Devils n'ont pas tremblé. L'occasion de sauver une saison noire pour le club actuellement 15e de la première ligue qui n'a plus que la Ligue Europa comme compétition. Même situation pour leur adversaire en finale qui sera Tottenham. Les Blues sont actuellement 16e de la PL juste derrière Manchester United. Hier soir, ont remporté leur quart de finale 2-0 face à Bodo Glimt. Tout comme les Red Devils, Tottenham n'a que cette compétition pour sauver leur saison. A noter que c'est ici que prend fin le parcours du petit club norvégien Bodo Glimt qui se sera hissé jusqu'en demi-finale. Compte à rebours en Ligue 1, il reste 2 journées de championnat, toujours cette folle course pour la Ligue des Champions. Toutes les confrontations se joueront le samedi à 21h. Marseille, deuxième du championnat, va chercher à consolider son avance de 1 point face au Havre à l'extérieur. Il ne faudra pas un faux pas pour les Marseillais car les concurrents pour la deuxième place sont juste derrière. C'est le cas de Monaco, troisième à seulement un petit point derrière l'OM. Un défi de taille attend les Monégasques qui seront confrontés à Lyon, septième, loin derrière à 4 points mais qui, en cas de scénario complètement fou, peut encore croire à la Ligue Europa, voire la Ligue des Champions. Il y a 3 équipes à seulement 2 points derrière Marseille. C'est le cas de Nice qui se déplacera à Rennes, de Lille qui affrontera à Brest et enfin de Strasbourg qui se déplacera aussi à Angers. Des rencontres abordables sur le papier mais qui sont cruciales pour les 3 équipes. La semaine prochaine risque d'être assez folle. Et enfin finissons sur le Paris Saint-Germain, déjà vainqueur de la Ligue 1 depuis quelques journées. Les Parisiens se sont relâchés et se projettent déjà sur une finale de Ligue des Champions. Ce sera une équipe remaniée qui se déplacera à Montpellier, dernier du championnat. Un petit peu de balle orange. Hier, le Français Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves ont remporté le 2e match de leur série de playoffs face aux Golden State Warriors. Les Wolves également Alissa un partout et ce soir, vous pourrez retrouver les Indiana Pacers face aux Cleveland Cavaliers à 1h30 du matin. Et dans la nuit pour les plus courageux, une superbe rencontre entre Denver et Oklahoma. Il faudra se lever, c'est à 4h du matin. Place au cyclisme mais surtout au Giro. Aujourd'hui débute un des plus grands tours de la discipline qui est le Tour d'Italie. Comme le veut la tradition, l'édition 2025 débutera pour la 15e fois en dehors des frontières italiennes. Et cette année, pour les 3 premières étapes, ce sera en Albanie pour la première fois. Le Giro traversera pas moins de 15 régions italiennes et 3 autres États, comme cité précédemment l'Albanie, la Slovénie et pour la première fois aussi la cité du Vatican. Avec l'absence de Tadej Pogacar, la compétition s'annonce plus ouverte que jamais. Une bonne mise en bouche avant le Tour de France. Restons en Italie pour du tennis. Nous sommes actuellement en plein Master 1000 de Rome. Ce Master signe surtout le retour de Jannik Skinner, numéro 1 mondial du tennis, 3 mois après sa suspension pour dopage. La star italienne affrontera samedi Navon. Aujourd'hui, c'est aussi l'entrée de certaines têtes de série, notamment le français Arthur Fix qui s'est imposé 2-7-0 face à Greg Sport et Carlos Alcaraz qui s'est imposé 2-0 face à Lajovic. Du tennis et l'Italie au programme pour l'anecdote du jour. L'Américain Robert Francis Prévost, 69 ans, est devenu hier le premier pape originaire des États-Unis sous le nom de Léon XIV. Si le pape François était un grand fan amateur de football et qui se revendiquait comme un supporter du club argentin de Santos Lorenzo, son successeur est lui un amateur de tennis. En effet, dans une interview accordée à l'Ordre des Augustins, le natif de Chicago avait déclaré à l'époque où il était encore cardinal qu'il se considérait comme un joueur de tennis amateur depuis qu'il a quitté Le Pérou, il a eu peu d'occasions de s'entraîner, donc il a hâte de retourner sur les courts, a-t-il déclaré. Cela tombe bien, le Vatican dispose son propre court de tennis. Cette semaine, 10 personnalités, dont Yannick Noah et Florent Manaudou, ont levé le voile sur leurs troubles psychologiques dans un documentaire inédit diffusé sur M6. De quoi aborder le sujet avec un professionnel. Grégory Boulicaud est préparateur mental pour de nombreux athlètes et revient sur la préparation mentale et la notion de plaisir dans Radio Orient Sport du week-end. Il sera l'invité. Vous pourrez le retrouver samedi à 8h30, à 10h30 et à 12h30. Merci d'avoir écouté votre émission sport. C'était Arthur Claude Savoie. Bonne suite des programmes sur Radio Orient.
C'était Radio Orient Sport.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous souhaite une très belle soirée sur les ondes de Radio Orient.